Voilà, merci. Et je voudrais féliciter Anne Daouda pour cette présentation, puisque c'est un exemple assez original et dont j'en parlerai aussi un tout petit peu dans ma présentation. Et en même temps, je demanderai donc au président de séance une petite indulgence, parce que j'ai été interpellé par les présentations de Monsieur Pierre de Marais et Jean-Yves Marin, donc notamment en parlant de l'état des lieux de la conservation en Afrique, et puis quand on est revenu quand même bon, en tant que directeur de l'école du patrimoine africain. Et moi, je suis passé aussi dans le programme PREMA et ensuite à l'ICROM, le programme Africa 2009, tous ceux qui ont été évoqués. Donc je crois que je me dois de faire parler de ça. C'est ce qui m'a amené à faire une petite présentation sur l'école du patrimoine africain, rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur le Président. Et donc, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette rencontre, donc bien sûr Vincent Négré, Anne Maillot et Eric Huscombe qui ont préparé, qui ont associé l'école du patrimoine à cette rencontre, mais aussi tous ceux qui ont permis de faire en sorte que cette rencontre soit une réalité, qui est sur un thème très important et qui nous touche tous aujourd'hui. Et donc, merci également aussi au musée qui nous accueille et à toutes les bonnes volontés. Et donc, cette présentation de l'école du patrimoine africain, c'est pour que vous connaissiez un tout petit peu, parce que le parcours des différentes expériences qu'on a eues dans le temps, notamment Niamey, Jos, qu'on a cité, et ensuite l'école du patrimoine africain et l'université Senghor. Et ensuite, il y a une autre école qui est au Kenya qui s'appelle le CHEDA, Center for Heritage Development in Africa, qui est à peu près créée à la même période que l'école du patrimoine africain. Donc, mais qui ont un autre défi, notamment par rapport à leur fonctionnement. Et c'est ça pourquoi j'essaie de vous présenter ça, puisque au fait, si on veut parler de conservation aujourd'hui, si on veut mettre fin à l'aspect donc du trafic illicite, il faut que les professionnels soient formés, il faut que l'environnement du patrimoine soit assaini et qu'on en parle, que ce soit une réalité. Donc, des institutions comme l'école du patrimoine africain qui parlent de conservation et de gestion du patrimoine tous les jours au quotidien, et donc c'est important. Mais il y a un défi. Alors, pour éviter qu'on soit sur la même situation que Niamey et Jos, l'école du patrimoine a été créée sur la demande des professionnels. Et cette demande de professionnels a permis donc à pousser, de trouver un modèle différent de cela. Alors, ça a été créé, donc c'est une organisation aujourd'hui internationale non gouvernementale qui a un accord de siège avec le Bénin, donc depuis 2009, mais qui a été créée depuis le 11 novembre 1998 et en tant qu'établissement universitaire de formation de deuxième cycle à vocation donc internationale. On travaille donc tout ce qui est le patrimoine culturel, que ce soit mobilier, immobilier, matériel et patrimoine naturel. Alors, donc ça, c'est le siège donc, de l'école du patrimoine. Les missions, je suis obligé d'aller vite parce que le président, il me l'a dit, mais j'espère qu'il ne va pas me laisser le temps. Les missions de l'école, c'est donc la formation professionnelle d'abord, l'éducation au patrimoine, donc l'expertise dans les projets de développement, la diffusion spécialisée sur le patrimoine. Et les zones d'activité de l'école, c'est donc 26 pays africains au sud du Sahara, donc francophone, lusophone et hispanophone. Et le siège est à Porte-Novo au Bénin, avec une antenne à Libreville, pour travailler notamment sur les pays d'Afrique centrale, pour faciliter le travail. Et l'école du patrimoine intervient en dehors de cette zone, bien sûr, parce qu'on travaille dans les pays anglophones aussi. Alors, les principales offres de l'école, donc il y a un cursus de diplôme, donc une licence professionnelle sur la conservation préventive dans les musées, archives et bibliothèques, donc qu'on forme sur 2 ans, avec la collaboration de l'université du Bénin, qui est l'université d'Abomey-Calavi, et l'université Panthéon-Sorbonne, qui a été à la base de la création aussi un peu de l'école du patrimoine africain avec l'ICROM. Donc il y a ça, et il y a une autre licence en médiation culturelle qui est l'autre pendant de la conservation, parce que conserver c'est bien, mais il faut faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience, une diffusion. Donc on forme des patrimoniteurs ou des gens, des médiateurs du patrimoine, donc qui vont former avec en collaboration avec l'université d'Aix-en-Provence en France. Et des modules de formation continue sur la sensibilisation, la spécialisation, le recyclage sur le patrimoine, donc sous toutes ses formes. Alors, maintenant, l'organisation est flexible. Bon, il y a un conseil d'administration, une direction, un conseil pédagogique qui est lié à l'Université nationale du Bénin, et puis les différents pôles, que ce soit bien sûr formation et recherche, patrimoine immatériel et matériel, communication, territoire et patrimoine, ça c'est le patrimoine immobilier, pôle projets spéciaux, et puis musée au service de développement qui sont des projets spéciaux, et le jardin des plantes de la nature qui est donc un site naturel. Et bien sûr, une infothèque et un centre de documentation pour eux. Alors, une équipe une vingtaine de personnes en ce moment, et qui est constituée donc de personnes, une équipe internationale, et qui sont à la fois béninois, mais qui viennent de d'autres pays d'Afrique. Mais surtout un réseau professionnel qui est plus de 1000 personnes aujourd'hui avec qui nous travaillons, qui sont à la fois des gens qui ont été formés à l'EPA, mais dans les autres écoles aussi. Mais aussi des professionnels qui travaillent dans d'autres institutions ou dans les universités avec qui nous travaillons pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une convergence sur la conservation du patrimoine. Alors, ce qui est le plus important, c'est le financement. Alors, c'est un financement assez original parce que l'EPA s'autofinance. On ne reçoit aucune subvention d'aucune institution. Parce que c'est ce qui a fait que Niamey a fermé la porte, Diasso a fermé la porte. Alors, donc, on a dit, on va sur le pari de nous autofinancer. Donc, on a créé, d'abord, on a des revenus de gestion de projets. Les projets que nous réalisons, nous prenons 10% sur la gestion de projets. Et c'est sur ces 10% que nous allons faire 60% de notre budget de fonctionnement. Et ensuite, il y a un fonds qui a été créé grâce à l'ICROM, qui s'appelle le fonds EPA, qui permet aussi de nous amener aujourd'hui 40% de frais de fonctionnement. Voilà un peu sur quoi l'EPA fonctionne. Donc le budget annuel de fonctionnement, c'est autour de 120 000 euros, avec 700 000 euros donc de budget d'activité. Mais tout cela, il va falloir les chercher tous les jours. J'ai une vingtaine de personnes à payer tous les jours et aucun ministère ne me donne de l'argent. Ça, c'est très important. Donc je tenais à le dire parce que là, quand on parle de conservation, il faut aussi dire que les challenges et les défis qui sont là. Et c'est important que les gens le sachent et qu'on soutienne les écoles également dans ce sens-là parce que ce n'est pas une tâche facile. Je passe des nuits blanches dans ce sens-là, ça je vous le dis. Et le défi également, c'était rassembler le fonds, était basé sur rassembler à la mise, une mise de 2 250 000 euros au départ, placée sous la tutelle de l'ICROM, qui est une organisation internationale qui a été à la base de la création de l'EPA et bien d'autres programmes. Et ce sont les revenus, les intérêts générés par cela, qui est 100 000 euros environ, qui est reversé à l'EPA. Et avec la crise aujourd'hui, c'est descendu de 100 000 euros pratiquement à 60 à 70 000 euros. Parce que vous voyez encore, donc ça c'est encore un autre problème. Ce qui fait les 40%, les 60% dont je parlais, ça maintenant c'est presque 70% que je dois rechercher. Alors voilà, donc maintenant le défi fait qu'aujourd'hui l'ICROM a ouvert une autre campagne, donc pour pousser le fonds à peu près à 3 millions d'euros. Et il y a bien sûr des pays, des gouvernements, des fondations qui donnent. En gros, nous sommes aujourd'hui à 2 420 000 euros donnés par des fondations, des pays. Et le plus gros contributeur aujourd'hui, c'est le gouvernement italien, peut-être par hasard parce que l'ICROM est à Rome, mais aussi il y a des fondations et également des particuliers qui ont donné. Donc je tiens à remercier tout le monde et faire en sorte que ce fonds puisse vraiment aller à 100% pour soulager. Parce que quand vous voulez faire de l'enseignement et que vous devez chercher de l'argent en même temps, ce n'est pas facile. Voilà, donc quelques images de... Ah, je ne vais pas perdre le temps. Voilà, donc là, il y a le site de l'EPA, donc pour pouvoir avoir plus d'informations. Et je disais qu'il y a une école similaire qui existe également, donc au Kenya, qui est le Cheda. Mais pour les problèmes de financement, cette école est aujourd'hui menacée de fermeture. Parce que cette école n'a pas de fonds. Et le fonds que nous avons, ils n'ont pas. Donc ils doivent chercher de l'argent. Donc c'est un véritable défi. Alors, je vais passer à la prochaine étape. Est-ce que... Oui, c'est là. Alors, la présentation maintenant qui est sur le thème. Donc, il s'agit donc de présenter ça. Et comme je vous ai dit, moi, ma contribution, je ne vais pas revenir sur ce qui a été déjà dit parce qu'on a eu d'éminents personnes ici plus autorisées que moi de parler de problèmes de réglementation, de parler de loi. Je vais essayer de parler beaucoup plus de comment le réseau a pu intervenir donc, dans ça parce que c'est un problème récurrent. Et aujourd'hui, qu'en pensent les membres du réseau? Qu'en pensent les professionnels sur le terrain? Donc, j'ai essayé de faire une enquête donc, auprès de différents pays et différentes institutions pour recueillir leurs avis. Et donc, le plan de l'exposé est là. Donc, il y aura une petite introduction à la présentation avec présentation du corpus et des résultats, une analyse des interprétations des données et la question de la restitution des recommandations et une conclusion. Alors... Pour les images, je ne vais pas non plus donner des images de fouilles, mais j'ai mis les images du patrimoine juste pour là, mais ce n'est pas forcément lié à un contexte particulier, étant donné qu'il y a eu des thèmes plus pointus sur des fouilles, sur les fouilles archéologiques ou d'autres aspects. Moi, c'est un avis beaucoup plus de ceux qui aujourd'hui sont sur le terrain, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et donc, le phénomène étant un phénomène important, et il a été important donc, de recueillir l'avis donc, de ces personnes-là pour voir un peu quelle est la situation. Le corpus, donc l'enquête a été menée auprès de 14 institutions, disons, qui se situent dans une dizaine de pays. Donc il y a 12 musées, dont 10 publics et un musée communautaire. Il y a 2 institutions d'archives et une bibliothèque. J'ai voulu aussi faire la diversité, que ce ne soit pas seulement dans les musées, mais que ce soit aussi dans d'autres types d'institutions, puisque le pillage concerne aussi les bibliothèques, concerne aussi les archives. Et bien sûr, j'aurais bien voulu aller aussi sur les sites, parce qu'on a parlé des sites ici, étant donné qu'on travaille aussi sur les sites. Donc, il y a des sites, il y a musées de sites, mais il y a aussi tout ce qui se fait aussi sur les sites naturels aujourd'hui avec le braconnage et autres. Mais je ne vais pas m'étendre parce que ça a été aussi abordé, mais il fallait donc élargir la question. Donc, le type d'institutions sondées sont de type ethnographique, historique, archéologique, archéologique et militaire, anthropologique aussi. Et le nombre de pays, donc j'ai dit 10, en Afrique de l'Ouest, il y en avait 10 institutions dans 6 pays, et en Afrique centrale, il y a 4 institutions dans 4 pays. Alors, la présentation des résultats, les ressources humaines, l'effectif qui est au niveau du personnel varie dans les institutions enquêtées de 3 à 150. 150 pour l'Institut des musées du Congo, ex-Zaïre, et à peu près 3 pour Nati Tengu, qui est une région du Bénin. Et de 12 des 14 institutions ont des agents formés en patrimoine culturel. Ils ont dit qu'ils ont des agents formés. Mais quelle formation? Donc on va faire une analyse aussi. Et le pillage des biens culturels, la situation est très alarmante. Deux en ont parlé. Deux ont dit que la situation est moyennement, en fait, est alarmante. 8, et finalement faiblement alarmante. Donc il y en a 4. Et type de biens les plus concernés, ce sont des objets, détenus par les populations locales, des objets de collection de musées et effectivement des objets issus des fouilles archéologiques et des fouilles clandestines. Le cadre juridique, comme je le disais tout à l'heure, je ne vais pas m'apesantir, mais quand même, et d'après les enquêtes, les institutions sondées ou les pays sondés, et la ratification de la Convention de 70, et qui est une convention essentielle pour la conservation, il y a 9 pays sur 10 qui l'ont ratifiée aujourd'hui. Et la convention UNIDROIT de 95, donc aucun des pays enquêtés l'a ratifiée. Les lois nationales, quand même, tous les 10 pays d'où proviennent donc les institutions disposent de lois sur le plan national. Et ces lois donc vont de 1960 à 2010. Alors 2010, ça veut dire que donc il y a des lois qui commencent à mettre à jour. Mais par contre, il y en a, leurs lois sont encore de 1960. Donc ça varie vraiment. Et ça, je pense que Vincent Negri en a parlé. Donc et je reviens là-dessus. C'est très important parce que les lois souvent ne correspondent pas à des réalités et ne n'arrivent pas donc à répondre aux besoins réellement. Donc c'est ça aussi, c'est très important. Et le trafic illicite, effectivement, cela, les dispositions prévoient le trafic illicite, notamment dans 9 pays. Le cadre institutionnel, les 10 pays disposent d'un service réglementant la sortie et l'entrée donc, des objets culturels avec un certificat d'exportation. 8 des 10 pays disposent de services de contrôle ou de sortie d'entrée également au niveau des frontières, terre, mer, air, assurés par la police. Ils déclarent oui. Aucune institution ne dispose de statistiques annuelles sur les entrées et les sorties. C'était clair. Donc si on n'a pas de statistiques aussi, c'est déjà un autre problème. Alors, et pour les inventaires, qui a été souligné effectivement maintes fois ici, c'est très important les inventaires. C'est vraiment un des premiers outils qu'il faut mettre en place. Quand on voit les inventaires, 2 sur 10 des pays d'accueil des institutions enquêtées disposent d'un inventaire général du patrimoine. Seulement 2. Ça, c'est déjà très significatif. Alors, 9 des 14 institutions enquêtées disposent d'un inventaire des collections. Ça, c'est déjà bien au niveau des institutions, dont un qui est en cours. 4 des institutions disent mettre à jour périodiquement leur inventaire. Donc, aujourd'hui, on voit, les 10 dernières années, pendant ces dernières années, on voit qu'il y a, disons, de 1 à 5 ans, 3 institutions disent qu'ils ont mis leur inventaire à jour. Entre 5 et 10 ans, 4 institutions. Plus de 10 ans, une institution. Voilà, 12 sur 16 des institutions disposent d'un responsable de collection, donc qui se charge spécialement de la collection, dont certains disent qu'ils ont dit que certains ont été mêlés à des problèmes de trafic. Et donc, ils ont donc des comportements. Donc, ça, c'est aussi c'est un autre problème, c'est des tentations qu'on sait. La vulgarisation des lois. Et ça, c'est un autre problème, parce que il y a des lois très souvent, ce n'est pas l'absence de lois, mais les lois sont très peu vulgarisées. Donc, et les lois, quand on regarde, donc 7 pays déclarent que les lois et conventions de protection du patrimoine sont connues des professionnels du patrimoine et des services de sécurité. Mais par contre, ce n'est pas connu du grand public, très souvent. Et donc, donc la totalité, pratiquement, le grand public, ils disent que le grand public n'est pas concerné. Alors que la diffusion ne doit pas concerner que les professionnels, parce que c'est une affaire de tous, effectivement. 8 pays disent organiser périodiquement des séances de sensibilisation sur l'importance des biens culturels en faveur donc des communautés locales. Et 8 institutions affirment avoir une collaboration avec Interpol et 9 avec les services de douane et de police. Bon, ça aussi, c'est déjà encourageant. Donc, la situation, quand même, a évolué, mais c'est un problème. Donc, analyse et interprétation des données. Le trafic illicite des biens culturels continue en Afrique. Ça, c'est clair, ça continue et ça s'amplifie même. 50 ans après donc, les indépendances, nous constatons que ça s'amplifie. Donc, c'est un problème. Alors, pourquoi ? La plupart donc, des institutions africaines de patrimoine ont des effectifs relativement acceptables pour, effectivement, au niveau de la formation aujourd'hui, parce que, comme j'ai dit, avec l'intervention des différentes formations, la situation a quand même assez évolué sur le terrain. Et il y a eu des formations au niveau de Prima, au niveau de Senghor, au niveau donc, il y a un changement, ça, il ne faut pas se le cacher. Même si on dépeint une situation très catastrophique, la situation a évolué. Aujourd'hui, les professionnels parlent de patrimoine et ils savent ce qu'ils font. Mais cela ne doit pas nous cacher aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup à faire. Ça, il y a beaucoup à faire. Donc, la majorité des pays ont mis en place un cadre juridique, administratif, mais la mise à jour également et l'application et la vulgarisation sont à renforcer parce que c'est encore faible. La majorité des pays disposent d'outils de contrôle et de circulation des œuvres, mais encore une fois de plus, on constate que l'application... Et ça, je ne me suis pas basé seulement que sur les pays enquêtés, mais sur aussi les enquêtes qu'on a eu à faire dans le passé. On a parlé d'une enquête menée par l'EPA avec l'UNESCO. Ça, je m'en suis servi aussi. Donc, tout cela m'a donné ce résultat qui est donc plutôt une généralité sur plusieurs pays. Et la grande majorité des pays africains qui sont aujourd'hui donc dotés de lois portant sur la valorisation, ça on le sait, grâce donc à différentes initiatives dont j'ai parlé, les formations qu'on a eues, mais aussi l'intervention des organisations internationales et régionales qui sont aujourd'hui des partenaires au développement. Et maintenant, j'explique ici par exemple la publication entre 2007 et 2009 par le programme Africa 2009, donc d'actes sur la protection juridique du patrimoine culturel africain, et qui a été fouillé en long et en large en faisant une citation donc, des pays. Et c'était des travaux dirigés par Vincent Negri avec le programme Africa 2009, dont j'ai assuré la coordination du programme à l'ICROM, que j'ai quitté seulement en août 2010. Ces documents sont disponibles aujourd'hui en ligne sur le site de l'ICROM, sur le site de l'EPA, donc vous pouvez aller les télécharger effectivement pour vous en inspirer. Et ça fait vraiment une part belle à l'Afrique, à la fois anglophone, l'Afrique francophone, mais aussi dire comment on peut démocratiser les lois aujourd'hui. Les lois, comme on a dit, sont peu connues encore et peu appliquées, ça aussi c'est très important, donc il faut travailler sur la diffusion et sur la sensibilisation pour l'utilisation et la mise en œuvre de ces lois. Donc, il résulte que le pillage continue encore une fois de plus. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, les causes ? Donc, absence d'inventaire, je mets ça en premier lieu. Absence, c'est-à-dire que ce n'est pas l'absence totale, mais il faut encore vraiment renforcer les inventaires. Sans inventaire, on ne peut rien faire. Donc, il faudrait que cela se fasse et que les inventaires soient fiables, les inventaires soient mis à jour, que ce soit partagé et qu'on ait des outils qui sont normalisés, mais aussi qui soient harmonisés pour qu'on puisse partager ces informations. L'instabilité politique aussi, et les conflits sociaux qu'on connaît, donc quelques exemples avec la Côte d'Ivoire, vous avez vu donc, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec le pillage du musée, et en Égypte également, avec le printemps arabe, donc j'en passe, donc ce sont des exemples que vous connaissez, donc qui font qu'aujourd'hui, des objets ont été pillés. Et également la mise à sac des instituts des musées du Zaïre également après à la chute de Mobutu, cela s'est passé. Alors les conséquences selon donc l'étude, la perte d'objets donc de valeur des objets de valeur fait que donc l'Afrique continue à s'appauvrir et la perte également progressive des témoins matériels donc et immatériels donc des civilisations, perte progressive de connaissances et de savoir-faire liés aux objets et au contexte porteur de vécu des peuples détenteurs. Et ensuite, la perte de la mémoire et donc des pays, qui est source d'inspiration et de repères pour les générations actuelles et futures. La méconnaissance par les nouvelles générations des valeurs culturelles du passé à travers les objets, la dislocation progressive également du mode de vie et du tissu social des populations africaines, ce qui est très important sur le développement durable. Et donc la question de restitution aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en pense? C'est un phénomène, donc, comme on le dit, c'est clair, c'est un sujet polémique, c'est un sujet qui n'est pas facile, mais est-ce qu'il faudrait en rester là? Il faut continuer à travailler sur la restitution. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui se cacher, se voiler la face. Il faut travailler sur le problème de la restitution, mais de manière intelligente. Alors, ici, il y a bien sûr les lois donc, qui sont inscrites aux stratégies donc, des différents pays à travers la Commission de l'Union africaine et qui concernent donc, les biens payés, les biens pillés. Et aujourd'hui aussi, la législation nationale qui en parle également. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Au-delà donc des raisons philosophiques, éthiques, juridiques et économiques qui peuvent justifier la restitution, et il est important aujourd'hui que les difficultés, qu'on puisse les surmonter et qu'on puisse comprendre qu'il y a une évolution des mentalités sur la question. Ça, c'est clair. Il y a une évolution des mentalités et il y a aussi une meilleure prise en compte également par la communauté internationale. Mais on ne saurait continuer donc d'y opposer des arguments, comme on le dit, que les musées ne sont pas, disons, outillés ou que les gens vont recevoir les objets, vont les revendre. C'est vrai, c'est une situation, mais ça ne peut pas être un argument. Il faudrait aller au-delà et qu'on mette un vrai dialogue entre les musées du Nord et les musées du site et qu'on puisse vraiment travailler sur de nouveaux partenariats avec des accords, effectivement, comme nous ont dit les juristes ici, qu'il faudrait que ce soit entre les institutions. Donc, la restitution des biens culturels, donc ça se fait. Et malgré la situation, on constate qu'il y a eu des cas, qui sont des cas d'école, certainement, mais il faudrait multiplier. Et donc, on a parlé de l'obélisque d'Aksum également. On a parlé de la restitution donc, de statut bété donc, à la Côte d'Ivoire par la France. Et également, le transfert donc, des musées nationaux du Zaïre qui ont été faits. Mais c'est vraiment peu, donc il faut renforcer, il faut pousser davantage, mais avec un partenariat direct entre les musées du Nord et les musées du Sud, mais travailler de manière franche et de manière décomplexée. Alors, quelques recommandations. Renforcer la mise en place, donc le jour de la mise en place des systèmes d'inventaire. Et ça, l'École du patrimoine a travaillé avec ses différents partenaires, notamment l'ICROM et l'UNESCO. Et il y a un grand projet, notamment pour la mise à jour des inventaires dans les musées. Et on est en train de faire des formations. Même demain, le lundi, on ouvre une formation au Gabon. La semaine dernière, c'était au Togo. Et on travaille sur les inventaires, on forme les gens et on fait en sorte que les inventaires puissent se mettre en place. Et ce travail continue et on va le pousser davantage. Il faut assister les pays à cela. Et tous les anciens étudiants également, nous avons trouvé les moyens pour que chez eux, ils puissent travailler sur ces problèmes parce qu'ils ont été formés à cela et qu'ils puissent le faire. Donc je pense que c'est important dans cela. Renforcer les législations également, notamment sur les fouilles archéologiques, en essayant d'insérer notamment des clauses sur les études d'impact. Parce que ça, on ne le dit jamais assez, les études d'impact, c'est important, notamment sur les aspects culturels. Et que les pays soient regardants dessus et qu'on tienne à le faire. Parce que ça permet de faire de l'archéologie préventive et d'éviter les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Assurer une meilleure prise en compte donc, des lois traditionnelles et des systèmes de gestion traditionnels également. Et les pays doivent le faire. Je crois que c'est le sujet qu'on venait de discuter avec Vincent. Il faut que les pays soient plus regardants, qu'ils mettent les moyens pour que nos lois soient effectivement prises en compte donc, dans la lutte et la gestion du patrimoine. Alors, il faudrait qu'il y ait des mesures dissuasives également et sanctionner effectivement, comme on l'a dit. Je pense qu'il y en a qui l'ont dit avant moi. Instituer des certificats d'exploitation sur des modèles qui existent, des modèles par des institutions internationales et à la fois l'importation et l'exportation. Amener donc les populations à mieux apprécier leur patrimoine culturel et à s'en occuper en combinant donc des mécanismes. On a parlé des banques culturelles ici, mais aussi il y a 12 expériences qu'il faudrait multiplier qui sont à la base. Et mettre en place donc des programmes et des actions concertées permettant de démontrer que le patrimoine est un levier de développement. À ce sujet, nous avons mené à l'EPA en février 2011 un atelier avec l'Union européenne, l'Europed, et avec l'ensemble des bureaux de l'Union européenne en Afrique et dans les ACP Caraïbes, justement, pour parler du rôle du patrimoine dans le développement économique et social. Et les recommandations, je crois que Christophe vous en parlera dans sa présentation, c'était très important, c'est un pas décisif parce que l'Union européenne va beaucoup changer également de vision de la chose à cela. Parce qu'il faut des mécanismes également pour supporter les acteurs sur le terrain. Parce qu'on a beau défendre si on n'a pas des éléments qui permettent donc d'améliorer la situation et de donner les moyens aux acteurs, ça ne marche pas. Les partenariats également, il faut encourager, comme je le disais, entre les partenaires politiques, et les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, et il faudrait travailler à l'éducation au patrimoine des jeunes, notamment à travers... Je termine. À travers donc la valorisation du patrimoine, notamment, et cela se fait, et je donne un exemple ici, l'école du patrimoine, grâce à un programme qui s'appelle le fonds prioritaire donc, pour le développement du ministère donc, des affaires étrangères donc, de la France. Et on a eu un programme de 3 ans, de 2007 à 2010, donc, qui a permis un programme de 3 millions d'euros qui est parti sur 3 ans pour des différentes activités. Et effectivement, le projet de l'exposition Tiwara au Musée national faisait partie, mais c'était un volet français. Il y a eu un volet africain que nous avons géré, l'école du patrimoine a géré, et il y a un volet au niveau donc, de la France qui a été géré. Donc. Mais quand je dis 3 milliards, c'est l'ensemble du budget, bien sûr, et bien sûr, la mission tout compris. Et donc, cela, ça a permis donc, d'améliorer l'offre scientifique et culturelle des musées et d'autres institutions, de faire en sorte que les mallettes pédagogiques soient constituées pour aller dans les écoles, la mise en place aussi d'expositions de proximité et d'expositions de visibilité donc, au niveau des musées. Je vais parler donc d'une exposition qui s'appelle A comme Afrique, et l'exposition sur l'ABCDR, qui a permis donc de faire une grande exposition au Kenya pour les pays anglophones et une grande exposition au Burkina Faso pour les pays francophones, mais qui parle de l'Afrique d'aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas une exposition ethnographique, mais c'est une exposition qui décline toutes les lettres de l'alphabet pour montrer le dynamisme, l'Afrique dans son développement, ce que l'Afrique fait aujourd'hui. Ça, c'est très important pour la diaspora aussi, pour qu'ils soient fiers de leur continent, les enfants. Et également, donc, l'intégration du patrimoine donc, dans le curricula, ça c'est un grand programme que nous avons commencé également, faire en sorte que le patrimoine soit inséré effectivement dans les programmes scolaires. Et on a travaillé déjà au Mali, au Cameroun, au Gabon, et on continue au Bénin, on continue de le faire, en mettant en place, avec les inspecteurs de l'enseignement, et un réseau qui continue à travailler. Donc pour que désormais les enfants soient instruits de leur patrimoine et qu'ils en soient fiers. La démultiplication de l'expérience des banques culturelles du Mali, donc j'ai dit, donc il faut continuer. Grâce au projet, on en a fait également au Togo et au Bénin, et on va continuer d'autres. Le renforcement également des espaces, des cases patrimoniales au Cameroun, c'est un peu comme les banques culturelles, ça on a renforcé, et encouragé la création de nouveaux types de musées également, comme les musées militaires, qui aujourd'hui doivent contribuer à la gestion de la paix, en temps de guerre comme en temps de post-conflit. Les musées militaires ont un rôle important à jouer, donc il faut vraiment appuyer. Et nous avons vraiment mis un séminaire en place aujourd'hui. Et il y a un réseau de musées militaires qui se mettent en place. Parce que c'est très important. En Côte d'Ivoire, si cela était, on n'aurait pas eu ce problème-là. Et il faut pouvoir prévenir également. Alors, comme conclusion, donc effectivement, il y a ce gros problème, on le connaît. Ce préjudice est là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait travailler. Et puisque la grande partie des expositions, des collections sont quand même à l'extérieur, aujourd'hui on le sait, mais ça ne veut pas dire que ces objets sont perdus, ces objets sont là. Il faudrait pouvoir ouvrir un dialogue pour voir comment on peut partager nos expériences, comment on peut le faire. Il y en a qui ont dit ici qu'effectivement, ces objets, bien sûr, il y a des objets qui doivent retourner absolument au pays, mais certains objets doivent rester aussi dans le cadre du dialogue. Ça, c'est sûr qu'il faut. Donc, il faudrait s'ouvrir et il faudrait travailler de manière, comme je le dis, de manière intelligente sur ce problème-là. Mais l'exposition de Dogon qui a eu lieu au Quai Branly, encore une fois de plus, on en parle. Et il y a eu très peu d'Africains qui ont pu avoir accès à ces objets à cause des problèmes de visa. Donc, bien sûr, une grande exposition avec tant d'objets, mais ce sont, bien sûr, malheureusement, peu d'Africains ont eu accès à cela. Donc, il faudrait penser au problème. Et la suite, donc, la restitution intelligente, donc, comme je disais, il faut le faire et il faudrait renforcer l'administration, le cadre législatif, le cadre des professionnels également, continuer à former une masse critique et faire en sorte que, disons, cela se fasse, disons qu'on ait un cadre assaini. Donc, l'École du patrimoine a travaillé à cela depuis sa création et je demande vraiment le soutien de tous les acteurs pour que ces institutions qui sont sur le terrain, il n'y en a pas beaucoup, continuent à travailler. Parce que ces institutions jouent un rôle important dans la préservation du patrimoine, dans la conservation, dans la valorisation et dans la lutte contre le patrimoine et surtout dans les problèmes de mémoire.
Monsieur Mekweta, je suis obligé de...
Je termine.
Ok, merci.
Merci.
Ok, merci. Merci beaucoup. Nous venons d'épuiser...
Les yeux, il y a des photos de l'exposition qui a été montée au Kenya.
Ok, très bien. Merci. Nous avons vraiment épuisé tout notre temps pour cette présentation. Est-ce que quelqu'un voudrait encore... Oui. Ou bien on passe à la... Oui. Une seule. Une seule.